Il faut peut-être aussi mettre l'accent sur un point, c'est que durant l'opération qui l'opération qui consistait à ramener Rivka, il y a eu un changement. Le changement, vous vous souvenez, on avait dit, le changement, c'est que Eliezer, qui était maudit, qui était Arour, il est devenu Baruch. C'est une des choses. Mais il y a aussi une autre chose. C'est que dans le numéro 12, le Midrash avait dit, le Midrash avait ramené un passouk dans Michelet et qui parlait donc de la justice de l'intègre. Et on avait dit, la justice de l'intègre, c'est Yitzhak. Aplani son chemin, c'est le chemin d'Éliézer. Mais l'impie meurt par là où il a péché, c'est Betuel, qui voulait lui tuer Éliézer et faire main basse sur les richesses. C'est lui qui est mort. Alors vous voyez ici, la justice de l'intègre, c'est Yitzhak. Et on nous dit ici que le chemin d'Éliézer, c'est le chemin d'Yitzhak. Bon, ça veut dire, si Eliezer a un chemin qui est complètement aplati, etc., tout se passe bien, c'est présenté ici comme étant la conséquence de l'intégrité, de la justice de l'intègre, c'est-à-dire d'Yitzhak. Ça veut dire que ici, Eliezer apparaît comme le serviteur d'Yitzhak. Donc il est parti serviteur d'Abraham, qui effectivement lui a donné l'ordre de trouver une femme pour Yitzhak. Mais quand il, durant le processus, il devient petit à petit, au moins pour cette situation-là, pour ce temps-là, il devient le serviteur de Yitzhak. Et quand Rivka, on va y arriver, et quand Rivka va demander, quand elle voit au loin, elle voit Yitzhak, elle lui demande, mais c'est qui le personnage là? Alors, Eliezer va dire, c'est mon maître, Yitzhak. Donc voilà, ça a glissé. Avraham est encore vivant, donc Yitzhak, il n'a pas hérité d'Eliezer. Je sais, on nous dit rien enfin, je connais rien en tout cas de ce que Eliezer a fait après cela. Il est arrivé, il a fini sa mission. Qu'est-ce qu'il fait là? Avraham, il va aller. Est-ce qu'il suit Avraham aussi? Il sera toujours le serviteur d'Avraham quand Avraham va aller épouser Ketura Agar, etc. Eliezer sera toujours avec lui? Ou est-ce que Eliezer il va son chemin après à ce moment-là? Ou est-ce qu'il va mourir? Ou est-ce que bon, je ne sais pas ce qui va advenir de lui. Mais en tout cas, pour un moment, en tout cas, pour la fin de sa mission, il apparaît comme étant le serviteur d'Yitzhak et pas celui d'Abraham. Donc non seulement il est devenu Baruch, mais c'est comme s'il avait un peu changé de maître, au moins momentanément. Voilà. Donc on nous parle maintenant d'Yitzhak. Et on nous dit d'Yitzhak, un verset difficile à lire. Le verset dit, Veitzrak ba mibo be'er lachayroi, vu Yoshev be'eretz ha'negev. Bo mibo, c'est compliqué de. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'était bo mibo. Rashi dit simplement, Mibo ber la chayroi, Ils ont traduit ici dans le Stone. Ils ont traduit. Yitzhak était revenu après avoir été à Be'er Lahai-Roi. Il était revenu car il habitait dans la région du sud. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on nous raconte qu'il était revenu? Qu'est-ce que ça veut nous faire? Où il est allé avant? Alors c'est très important, dit Rashi, parce que chez Allah, la vie Hagar, le Abraham aviv. En fait, lui, il habitait dans le sud, mais entre-temps, il est allé à Be'er Lahai-Roi. Peut-être pas, certains disent que c'est même pas à cet endroit qu'il est allé. C'est une façon de dire, il est allé chercher celle qui était à ce puits-là et qui a nommé ce puits. Là, c'est-à-dire Agar. Donc, Yitzhak est allé chercher, bon, il faut arriver à comprendre ce qui se passe là. Yitzhak va chercher une épouse pour Abraham. Et qui est-ce qui prend, d'après Rashi, par exemple, il prend Agar. Si je comprends bien, il est en train de prendre celle qui, d'une certaine manière, était la concurrente de sa mère. Voilà, celle qui s'était. Bon. Donc, il va, lui, qui est tellement proche de sa mère, qui était tellement proche de sa mère, il va chercher pour Abraham une épouse. Et qui y prend? Il prend Agar. Il n'y a pas vraiment de commentaire ici là-dessus, mais j'ai pensé que on peut peut-être se dire la chose suivante. Quand Abraham a reçu l'ordre d'Hachem de chasser Agar et Ishmaël, alors le passouk dit que ça lui était difficile à cause d'Ishmaël. Il y a des Midrashim et des Chazal qui disent que c'est pas marqué, mais ça lui était difficile aussi à cause d'Agar. Parce que lui, il était attaché à Agar. Alors c'est possible que Yitzhak a compris que, bon, Agar, elle avait un problème avec Sarah, mais tant qu'à faire, Abraham, il est encore quelque part attaché à Agar. Il en a été séparé parce que c'était nécessaire pour l'épisode de construction d'Yitzhak. C'est Sarah qui a dit, je ne veux pas que mon fils hérite, enfin, que Ishmaël hérite avec mon fils, etc. Il faut les séparer et tout. Ok, d'accord. Mais ça, c'était pour une certaine époque. Et tant que Sarah était là. Mais maintenant, Sarah n'est plus là. Et Abraham, semble-t-il, a besoin d'une épouse. Eh bien, on va pas prendre n'importe qui. On va prendre cette femme avec laquelle Abraham s'est déjà bien entendu, avec laquelle il s'est d'une certaine manière attaché. Bon, je sais pas s'il y a des chazals qui vont dans ce sens-là. Mais disons, il me semble que ça doit pouvoir se dire, quoi. En tout cas, c'est l'impression que ça me fait. Vous voyez, ici on a une situation étrange. C'est le fils qui va chercher une épouse pour le père. Alors, il revient d'une situation où il est allé chercher une épouse pour le père, pendant que, sur l'ordre de son père, l'esclave de son père est allé lui chercher à lui, pour lui, une épouse. Donc, je vais penser que quand Abraham redescend à Moria, il ne descend pas avec Yitzhak. Chacun va son chemin. À ce moment-là, quand Abraham descend, c'est plus lui le patriarche du clan d'Israël. C'est Yitzhak le patriarche. Et puisqu'il est le père, alors quelque part, il est le père de son père. Quelque part, il va chercher pour son père une épouse. Bon, ça c'est juste en passant, mais voilà. Et en tout cas, il a un souci de permettre à Abraham d'épouser une femme, dans l'occurrence Agar. Et c'est très important parce que Abraham, il est Avraham Goïm. Il est le père d'une multitude de peuples. Alors, certains disent, la multitude de peuples, c'est le fait que le clan Israël, en fait, c'est plusieurs peuples. Comme les fils de Jacob lui ont dit, Jacob, qui se désolait, qui pensait qu'il avait raté sa mission, puisque au lieu de construire un clan, j'ai 12 peuples devant moi. Et ils lui ont dit, c'est vrai, on est 12 peuples, mais on est unis par le fait que Hachem est Echad. C'est ça que nous reconnaissons tous. Et donc, l'idée, c'est une multitude de peuples, c'est le peuple juif, en fait, qui est une multitude de peuples. Et d'autres disent que non. Il y a le clan d'Israël, mais il va avoir des enfants qui ne seront pas dans le clan d'Israël. C'est ce qui va se passer. La Torah va nous dire, après, voilà, Abraham s'est marié avec elle, et il a toute une descendance de gens qui ne sont pas des Bnei Israël, qui sont des peuples qui sont des descendants d'Abraham, mais pas des descendants de l'Abraham, ancêtre du peuple juif. Donc ça, c'était une autre mission qu'Abraham avait à faire, avait à accomplir, en plus de mettre au monde, mettre en marche un processus qui va produire le clan Israël. Il devait aussi mettre en marche un processus qui produit d'autres peuples. Pourquoi ça doit passer par lui? Je veux dire, est-ce que c'est parce que ces peuples vont devenir très importants et que est-ce que c'est un travail en vue de la reconnaissance future par tous ces peuples d'Hachem? Est-ce que leur ascendance, Abraham, va les aider à faire ce travail ou non? Je ne sais pas. Ce n'est pas dit ici. Donc, on nous a dit, voilà, Yitzhak était allé là-bas, maintenant il est de retour. Et il sort prier dans le champ vers le soir. Il prie dans le champ. C'est de ce verset qu'on apprend que pour Yitzhak Avinu, le Beth Amikdash, c'était un sadé. C'est-à-dire, dans un sadé, dans un champ, on doit travailler le champ. Il y a une avoda. Le Beth Amikdash comme lieu de avoda, ça c'est la vision du Beth Amikdash qu'a Yitzhak Avinu. Comme vous savez, pour Abraham, c'est plutôt une montagne. Et pour Yaakov, ce sera un bait. Et c'est ce que nous allons garder comme terminologie, le bait Amikdash. On n'appelle pas le Zde Amikdash. Construire une maison. Parce qu'il y aura des caractéristiques de la notion de maison dans le bait Amikdash. Mais pour Yitzhak, c'est un problème d'avoda. Et quand on dit prie dans le champ, ça veut dire cette notion de mise en rapport entre la avoda et la prière. La prière, c'est une forme d'avoda. Et c'est vers le soir, parce que ça fait référence au fait que on est vers le soir, c'est-à-dire c'est la tfila de Mincha qui a été instaurée par Yitzhak Avinu. Bon, il est parti prier. Et il a, comme on dit, il a levé les yeux. Il a vu qu'il y avait des chameaux qui arrivaient. Et le verset d'après, il dit, « Et Rivka a levé les yeux. » Elle aussi, elle lève les yeux. Et du coup, elle voit Yitzhak. Là, bon, elle va pencher, éventuellement dégringoler en bas de son chameau. Et elle dit au serviteur, elle dit au Eved, elle dit à Eliezer, Et qui est cet homme qui marche dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur dit, c'est mon maître, ce que je vous ai dit. Il dit, c'est mon maître, et il dit ça à Yitzhak. Alors, le verset dit que dans le texte lui-même, quand on dit qu'Yitzhak vayetse, Yitzhak la suach basade, ifnot arev. La soir va s'adé. Qu'on traduit, il est sorti la soir. Alors, a priori, on dit, il est sorti prier. C'est ça qu'ils ont traduit dans ce tout. Eux, ils ont traduit, il est sorti pour se promener. La soir. Parce qu'il y a une ambiguïté sur ce mot de la soir. La soir, c'est le même mot qui donne sikha, qui est une façon de conversation de coup. Le verbe de sikha, c'est soir. Et donc, on peut dire qu'il est allé se promener. Mais dans le Midrash lui-même, il n'a pas lu promener. Le Midrash, il a lu Ein Sicha Ela Tfila. Sicha. C'est difficile de dire que la promenade est une forme de prière. Par contre, si on traduit Sicha par l'autre traduction qui est de causer, de conversation, de dialogue, de causer, alors on peut dire que la causer, c'est prier. Dialoguer, c'est prier. C'est ça que dit le Midrash. D'où est-ce qu'on sait cela? Parce que c'est marqué dans Tehilim. Tefila le ani, ki yatof, prière pour le pauvre, qui s'enveloppe. Velifne Hashem, et qui devant Hashem, yishpor siro. Il déverse Siro, il déverse sa conversation, sa causerie, sa prière. Et de même, il est marqué Erev avoker vetzauraim, asicha, soir, matin, midi, asicha, la chose sicha. Je parlerai, je causerai, je prierai. Veme. Vishma Koli, matin, soir, etc. Je causerai. Ehemé, c'est se plaindre, se gémir un peu. Et Hachem écoutera ma voix. Je vais me lamenter. Donc, en mettant bout à bout ces versets de Tehilim, on montre que un des noms, il y a beaucoup de noms pour la prière, un des noms de la prière, c'est Sicha. Sicha, c'est un mot qu'on prend pour aujourd'hui pour parler d'une causerie. Conférence. Sicha, c'est plutôt quelque chose qui est presque un dialogue. C'est bien de ça qu'il s'agit avec Hachem. Lui, David, dans le Tehilim qu'on a cité, il dit, je vais déverser ma prière, ma causerie, en fait. Ishpoch. Le pauvre, enfin, il parle du pauvre qui va déverser sa prière, déverser sa causerie. En tout cas, de là, on apprend que Yitzhak était donc sorti pour aller dans les champs, c'est aussi un petit problème parce que, halakhiquement, on ne prie pas à ciel ouvert, complètement dans les champs. Peut-être qu'il y avait quelque part un abri ou. Donc, quelque part, il est parti et il est allé pour dialoguer, a priori, avec Hachem. Et au lieu de dialoguer avec Hachem, il trouve un autre interlocuteur. Parce que le verset dit, il a levé les yeux et il a vu qu'il y avait des chameaux qui arrivaient. Il a vu que des gens arrivaient. Le verset est étrange quand même. Dire il a vu des chameaux, c'est important, des chameaux. Pourquoi on ne dit pas il a vu des gens arriver? Ce qui était important, c'est que des chameaux arrivent. Bien sûr, ils sont arrivés sur des chameaux, c'est possible qu'on voyait des chameaux, mais il a bien vu que ce n'était pas des chameaux qui marchaient tout seuls, ce n'était pas un troupeau de chameaux au galop, etc. C'est une caravane. Donc pourquoi on dit il a vu qu'il y avait des chameaux? C'est un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez dit, si vous aviez rédigé la chose, vous auriez dit il a vu des chameaux? On lève les yeux et on est frappé par quelque chose. Ah, il y a des gens qui arrivent. On ne va pas dire il y a des chameaux qui arrivent.
C'est ce qu'on voit.
Pardon?
C'est ce qu'on voit.
Désolé, je n'ai rien entendu.
Ah, moi, vous m'entendez mieux là?
Oui, maintenant, oui.
Je dis, c'est ce que l'on voit en premier.
Mais oui, mais quand vous voyez des chameaux, en plus, quand la Torah, elle veut nous rapporter qu'il a levé les yeux pour voir quelque chose, et ce qu'il voit ici, c'est en vérité la caravane qui amène sa kala. Même s'il ne sait pas que c'est elle, d'abord, c'est possible normalement, il aurait dû reconnaître les chameaux. Son père, puisqu'on sait qu'ils sont reconnaissables, les chameaux sont muselés. Les chameaux d'Avram sont muselés. Ce sont les seuls chameaux qui sont muselés. Donc, parce qu'il voyait clair et il voyait bien qu'il a peut-être vu qu'il y avait des chameaux, mais même s'il a vu des chameaux, pourquoi dire qu'il a vu qu'il y avait des chameaux? Il a vu qu'il y avait des gens. Sur les chameaux n'étaient pas. D'accord, c'est vrai qu'il a. Je suis d'accord avec vous que la forme qu'il a vue en premier, peut-être, très certainement, même non, plutôt, très certainement, c'était la forme de chameau. Mais est-ce qu'on dit « j'ai vu des chameaux »
Oui, mais on ne dit rien sur Yitzhak.
Si, il a levé les yeux.
Oui, mais...
Le verset dit « il a levé les yeux et voici que des chameaux venaient. » Ma pitom.
Mais je veux dire, il n'exprime rien, Yitzhak, là, pour l'instant, la Torah ne, ne, ne lui fait rien dire, on ne sait pas dans quel état il est.
Si on sait, il est dans les champs, il est allé prier, c'est le soir, il est allé prier, peut-être il continue de se promener dans les champs, il réfléchit, il révise son limoud, je ne sais pas ce que vous voulez, il lève les yeux, il lève les yeux, regarde, quand on lève les yeux, c'est on veut regarder au loin, on veut voir quelque chose, il voit arriver des chameaux, c'est vrai, il y a des chameaux qui arrivent. Est-ce que c'est important de nous dire qu'il y a des chameaux qui arrivent? J'en ai rien à faire, que c'est les chameaux qui arrivent. Je suis pas d'accord. Je trouve que, ben, tu me dis, on va pas demander mon avis, hein, ils ont rédigé avant moi, mais quand même, c'est quand même étonnant. Mais bon, si ça vous étonne pas, on va passer à la chose suivante. Donc, il a vu les chameaux. Et elle aussi, elle a levé les yeux et elle a vu Yitzhak. Elle ne savait pas qui il était, mais elle a vu un homme. C'est vrai qu'il n'était pas sur les chameaux. Amar Avuna, Safa, Sheyado, Shtucha, Bitfila. Alors Avuna dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là que ce qu'elle a vu, c'était Yitzhak? Alors Avuna, il entend que le verset veut nous dire quelque chose de ce qu'elle a vu. Itzaf el tzafa sheyado shtucha betfila. Alors il priait avec les mains étendues vers le haut. Dans le Zohar, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de prier avec les mains vers le haut, sauf si on est un grand homme. Il y a toute cette histoire dans Birkat Kohanim. Est-ce que les Kohanim mettent les mains au-dessus de la tête ou à la hauteur des yeux? C'est toute une histoire. Donc, elle a vu que les mains étaient étendues. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a vu Yitzhak. Elle a vu un homme. Mais elle a vu quelque chose de particulier dans cet homme. Il y avait quelque chose dans son attitude, qui en fait, que nous on va expliquer comme étant l'attitude d'Israël, bien sûr elle savait, elle va demander tout de suite qui il est, donc elle ne sait pas qui il est, mais quand le verset dit elle a vu Israël, alors Avuna dit c'est parce qu'elle a vu quelqu'un, Amra Vadai, Adam Gadolhu. C'est sûr que c'est un grand homme. Quand elle connaissait le Zohar, Rivka. Quand même pas poussé. L'écart, Sha'ala, elle a alav, c'est la raison pour laquelle elle a demandé qui il était. Et le Eved lui a dit, ou Adoni, c'est mon maître. Alors, elle a posé la question, Vatipol Alors, ici, elle Vatipol Me'al la Gamal, a priori, elle est tombée du chameau. Donc, elle a glissé du chameau. Onkelos, il a traduit. Vitrachinat me'al gamamla. Donc, elle a glissé, en fait. Elle a glissé du chameau. Echma de Tamar, qui Paul l'oïtal. Alors, on s'appuie pour expliquer un peu ce terme de Batipol Me'al Agamal sur le Passouk qui dit Il ne tombe pas. Il y penche, mais il ne va pas tomber, quoi. Certains veulent dire qu'effectivement, elle n'est pas vraiment. C'est pas qu'elle est tombée, elle a penché, donc peut-être c'est ça l'idée qu'elle est glissée, elle a glissé en bas du chameau. Vatomer el ha'eved. Elle a dit à l'esclave, Mi ha'ish alazé, ha'olech basade likratenu. Alors, elle a demandé, qui est cet homme-là qui marche dans les champs dans notre direction? Rabchia Amar, Ra Oto Hadour. Elle a vu qu'il était splendide. Vetoha Mipanav. Echma de Atamar, iné baal ha-chalomot alazé ba. Elle s'est étonnée, en fait. Rabbanan amré, ou pilsuno alazé alunze. Ce mot de alazé, c'est un mot étrange. Alors, Rabbi a dit, il faut l'entendre dans le sens qu'il avait ce verset de ce mot de Alazé. Lorsque les frères ont vu arriver Yosef, qui venait donc envoyé par son père, alors ils ont dit, Iné ba la chalomot Alazé ba. Ils ont dit, voilà ce ba la chalomot. Ce maître des songes qui vient. Et Rabbanan Amré, les Rabbanan disent que, en fait, ce qu'elle a vu, elle a vu où? Ou pile ce nom? C'est lui le Alazé. C'est Alazé, c'est une certaine manière. C'est autre, en fait. Ça veut dire de. Il avait son ange gardien qui le protège. Bon, je sais pas exactement ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a vu que cette figure-là était quelque chose de tout à fait particulier. Mais c'était surtout un peu effrayant, quoi. Alors quand il lui a répondu à sa question, mais qui est-ce? Alors il lui a dit, c'est mon maître. Alors, Vatikach Hatsaif Vatitkas, elle a pris un voile, le voile, elle s'est recouverte du voile. Et le Midrash dit, Shtaimhen, Shtenit Kassou Betsaif. Il y en a deux qui se sont couvertes d'un voile. Toutes les deux, Yaldut et Omim, toutes les deux ont eu des jumeaux. C'est Rivka, elle, ici, et c'est Tamar, la Tamar de Yehuda, qui a donné naissance à Peretz et à Zerach, qui étaient donc des jumeaux, dont l'un est l'ancêtre du Mashiach. Vatikach Hatsaif Vatitkas. Ça c'est écrit sur Rivka, ici. Et chez Tamar, c'est marqué Vatras Batsaïf. Elle s'est couverte avec le voile. Donc on a une attitude, on a une femme qui voit un bonhomme tout à fait étonnant, dont elle comprend que ça doit être un grand bonhomme. Ben, elle se recouvre. Alors, le Midrash dit, voilà, cette démarche-là, c'est la même démarche que celle de Tamar. En vérité, Tamar, elle s'est couverte de visage pour passer inaperçue, pour ne pas être reconnue par Yehuda. Elle, Rivka, elle ne s'est pas couverte le visage pour ne pas être reconnue. On a l'impression que Tamar, elle s'est couverte pour ne pas être vue, et que d'une certaine manière, Rivka, elle s'est couverte pour ne pas voir.